France Inter.
Ce qui compte pour un acteur, c'est la personnalité. Sa présence.
Je vous répondrai non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule dans tes lèvres. Ok ?
Ça peut couler, hein.
On en parle. Tout.
Allez, action !
S'il sera encore mieux, c'est ne rien dire.
C'était le titre de l'un de ses films, Fire Walk With Me. Le feu marche avec moi et David est parti avec le feu. Celui qui ravage la capitale du cinéma, Hollywood. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à tous.
Il a compris très tôt que le sens n'avait pas d'importance au cinéma. Ce sont les sens qui priment. Ces émotions qui nous traversent devant ces films, des expériences, oui, ressentir sans forcément comprendre. David Lynch, le plus grand cinéaste vivant, est mort, comme l'a écrit Libé ce matin. Lynch, après 78 ans sur cette planète, qu'il a enrichi de ses visions. Bonjour Philippe Rouillet.
Bonjour.
Du Cercle sur Canal+, et directeur de la rédaction de Positif. Philippe, spécialiste de Lynch, et notamment avec ce doc incroyable retour à Mulholland Drive sur Canal+, justement. À vos côtés ce matin, deux jeunes réalisateurs. Bonjour Ludovic Boukerma.
Bonjour.
Bonjour Zoran Boukerma.
Bonjour.
Deux frères de cinéma impressionnés par celui de Lynch, un peu comme ses enfants après lui. Et dans quelques instants, nous rejoindrons au téléphone Thierry Frémaux, délégué général de Cannes, un festival qui a beaucoup aimé Lynch. Enfin, puisque le cinéma continue sans lui, les sorties de la semaine de Walter Salles à Desplechin, c'est parti.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
There's a thing called freedom, and it's very, very important. Free to think anything and do anything. Every human being has a line they won't cross, but it's a different place for each of us. But you need to have freedom to do your work. Any restrictions is a sadness, and it can kill creativity.
La liberté sans aucune restriction tuerait la créativité. Parole comme un mantra de David Lynch, parti ce jeudi. 10 films, une série culte Twin Peaks en 3 saisons. Lynch, Philippe Rouillet, une œuvre inquiétante et labyrinthique, en quelques mots.
Ben oui, parce que Lynch, c'est l'exploration de la nature humaine, l'exploration de sa psyché, et je veux dire, dans tous ses états. Donc, dans ses angoisses, et peut-être que les angoisses de la psyché humaine, c'est la plus grande part du cinéma de Lynch, mais il y a aussi des choses plus souriantes, plus amusantes, et aussi une foi en l'être humain qui déborde dans Elephant Man, qui déborde dans Une histoire vraie. Donc on ne peut pas juste entraîner Lynch dans la Black Room, hein, dans la loge noire de Twin Peaks. Il y a aussi quelque chose de plus solaire.
Bernardo Bertolucci. C'est vous qui avez le redoutable privilège d'annoncer maintenant la Palme d'Or.
La Palme d'Or 90, Wild at Heart, de David Lynch.
I've been trying to get to the Cannes Film Festival for 20 years. I can't believe what's happening. It's a true, a dream come true. Thank you very much.
Bonjour Thierry Frémaux.
Bonjour.
Bonjour, merci de rendre hommage à David Lynch. Lynch et Cannes, c'est une grande histoire.
Oui, ça l'a été à partir de Sailor et Lula, parce que ouais, comme il le dit lui-même sur scène, il a tenté de beaucoup aller à Cannes et il ne parvenait pas à y entrer. Et à partir de là, en effet, il est devenu un habitué. Et moi, je suis arrivé au moment où nous avons montré Mulholland Drive, oui, et qui était un film, d'ailleurs, en séance de 22 heures, qui n'était pas un film en séance de gala de 19 heures. Et parce que Naomi Watts, etc., c'était pas des grandes vedettes, et lui, il était, évidemment. Et l'ovation avait été interminable. sans doute comme une sorte de catharsis collective pour savoir, on savait tous, enfin les gens savaient tous qu'ils venaient de voir un truc très extraordinaire, même s'ils n'avaient pas tout compris, puisque Mulholland Drive reste, avec un certain nombre de films de l'histoire du cinéma, ces grands films formidables où on ne comprend rien.
Vous avez un souvenir, vous avez plein de souvenirs avec lui, mais un souvenir précis de Lynch, Thierry Frémaux.
Ça, c'est cette ovation qu'il avait reçue pendant Mulholland Drive, où je l'empêchais de partir.
Oui, j'ai entendu, il dit « on s'en va », et vous dites « non ».
Oui, oui, je dis « mais non », mais parce que les gens voulaient l'ovationner, voulaient le remercier, voulaient l'admirer, et lui, il était gêné, on s'était vachement regardé dans les yeux, et je lui dis, je l'empêchais de partir. Et puis l'année d'après, il est devenu, avec Gilles Jacob, on l'a sollicité pour être président du jury, et je suis allé lui rendre visite, et on a passé un peu de temps ensemble, et je me souviens que, comme de tradition, ce que je fais toujours, je lui dis, c'est évidemment le festival qui compose le jury, mais si jamais vous avez quelques ennemis, c'est le temps de me le dire, parce qu'on ne les mettra pas. Et il me dit, je n'ai pas d'ennemis, et si j'en avais, je ne vous empêcherai pas de les mettre dans le jury. Et là, on a tout de suite vu que le type était quand même très classe.
Il a donné la Palme d'Or au pianiste, d'ailleurs.
Il donne la Palme d'Or au pianiste, il donne le Grand Prix à
l'homme sans...
Kikorismaki.
Oui, l'homme sans passé.
Et à Kikorismaki, qui monte sur scène dans un état d'émotion énorme,
ah, il est génial,
qui va vers lui, et qui lui dit... Et David pensait qu'il allait se faire remercier, et à qui il lui dit « Who are you ?» Et « Qui êtes-vous » Mais tout ça était une plaisanterie.
Bien sûr.
Et vous avez entendu le son de cette palme, cette remise de palme. Il y avait quelques sifflets quand même, Thierry Frémaux.
Oui, alors c'était peut-être... comme souvent, d'abord, à un certain moment, quand les Américains recevaient une palme d'or, il y avait souvent ce côté, comment dire...
C'est vrai.
Il valait mieux la donner à un petit pays, quoi.
Bon. Ouais,
et puis, c'était un film... Tarantino a été sifflé, il a d'ailleurs bien rendu les sifflets.
C'est vrai,
bon,
ouais.
Piala a été sifflé.
Là, il était largement sifflé.
Ouais.
Mais il y avait un côté, sans doute aussi, film de genre, qui ne correspond pas au canon, qui ne correspondait pas au canon du film d'auteur, et pourtant, quel auteur ?
Qu'est-ce que vous aimez chez Lynch particulièrement, Thierry ?
Bah, moi, j'aime son cinéma, j'aime son univers, j'aime son caractère artiste, c'est-à-dire qu'il n'était pas seulement cinéaste, il était peintre, il était lithographe, il venait beaucoup à Paris, la Fondation Cartier l'a beaucoup exposé, ses lithographies, il avait un atelier à Paris, fallait le voir faire ça comme il faisait de la cuisine, et puis il était un grand esthète, par exemple, les échanges de mails avec lui, tous ses mails étaient en majuscules. Il les écrivait en majuscules. Enfin, tout pour lui était prétexte à un petit truc esthétique particulier, sa façon de s'habiller, sa façon de fumer était incroyablement élégante. Et puis évidemment, ses films, et même quand il passe de Lost Highway à Straight Story, à une histoire vraie, on voit bien que c'est le même auteur. Et on voit bien que c'est les deux faces d'une même personne qu'il était. C'est-à-dire que quand on déjeunait avec lui, qu'on dînait avec lui, qu'on le voyait, on n'imaginait pas que ce type si solaire, si ouvert, ce que vient de dire Philippe Rouillet, était aussi celui qui produisait des films comme Lost Highway ou Mulholland Drive. Ou le contraire, quand on voyait ça, on se disait, mais on s'attendait peut-être à trouver quelqu'un d'extraordinairement torturé. Pas du tout. Pas du tout. Et il était très... très avenant, très ouvert, très aimable aux autres.
Est-ce que vous avez... On a plein de scènes en tête de Lynch. Est-ce qu'il y en a une qui vous obsède ?
Oui, c'est les nuits de David Lynch, les nuits en voiture, avec la musique d'Angelo Badalamenti et ces nuits, ces phares qui sont dans la nuit. Ça, il a inventé quelque chose que ensuite. Ou peut-être avant, je ne sais pas, des photographes ont reproduit, des peintres ont reproduit. Il y a quelque chose d'extraordinairement contemporain, d'extraordinairement 20e siècle, la voiture. Et ça me plaît beaucoup. Et puis, il a aussi eu une façon, il ne faut pas oublier, de filmer les femmes. Oui. On voit l'être étrange de Eraserhead, ou évidemment le John Merrick de Elephant Man, mais il a incroyablement bien filmé les femmes, Laura Dern en particulier.
Est-ce que l'Institut Lumière va lui rendre hommage, j'imagine ?
Oui, d'autant que avec Fabienne Servan-Schreiber, on a retrouvé David Lynch avait fait un film Lumière en 1995.
Ah oui.
On avait fait refaire des films Lumière avec un cinématographe Lumière, donc 50 secondes, quelque chose de très codé puisque les films Lumière c'était un plan. Eh ben, il en avait fait un qui c'est plusieurs plans. On n'a jamais su comment il s'était débrouillé. Et en 50 secondes, en noir et blanc, avec un vrai cinématographe Lumière, il a fait un film lynchien.
Je fais une parenthèse par rapport aux incendies de Los Angeles, Hollywood. Est-ce que ça va impacter le festival de Cannes ?
Bah, j'ai beaucoup échangé là ces derniers jours et Iris Knobloch a fait la même chose, la présidente du festival. Oui et non, c'est-à-dire que bien sûr ça va l'impacter et ce qui se passe là-bas est terrible, mais ce peuple-là, ces gens-là ont une sorte de capacité à la survivance. On sent déjà que on va reconstruire, on va aller de l'avant et peut-être que le cinéma sera, puisque c'est la vie du cinéma, sera aussi l'une des manières pour eux de prolonger ou de retrouver le goût à la vie et le goût de l'ouverture au monde. On va voir. Oui, pour l'instant, non, ça va. Les films qu'on nous annonçait comme étant prêts le seront de la même manière.
Pour revenir à Lynch, qui était américain, mais qui était surtout produit par des Français, Thierry.
Oui, c'est une longue histoire d'amitié qu'il a eue avec la France, avec Sylvie 2000, Francis Bouygues dans un premier temps, et puis surtout Alain Sarde. Mmh. Alain Sarde était son grand producteur et son grand copain français. Et quand je me souviens, parce qu'à ce jour, Inland Empire restera son dernier long métrage de cinéma,
oui.
Et il n'était pas prêt pour Cannes. Alors je lui avais exprimé un petit peu ma déception, et il m'avait dit, mais non, je vais à Venise, mais tu as vu, je n'y vais pas en compétition, je ne vais en compétition qu'à Cannes.
Alors, c'est un malin.
Il savait me parler.
Oui, c'est ça.
Mais quand on a montré Twin Peaks, les deux premier épisode du deuxième Twin Peaks,
oui.
On l'avait montré comme en grand apparat dans la grande salle, ouais. À 19h, deux épisodes, deux heures de film. Ça avait été extraordinaire. Et pour plaisanter à la fin, je lui dis quand même pas mal ton feuilleton télé. Et il me dit, c'est un film.
Ouais.
Et pour lui, c'était le même travail.
Ultime question, est-ce qu'un metteur en scène français que vous aimez beaucoup, je crois, ne serait pas une sorte d'héritier pour Lynch? Je parle de Gaspard Noé.
Il faudrait lui demander à lui. Gaspard est un grand cinéphile. Et sans doute qu'il a de multiples influences. Au même titre que lui-même, aujourd'hui, est un grand influenceur des formes nouvelles du cinéma.
Oui.
Mais oui, sans doute, parce que Gaspard est un grand admirateur de Kubrick. Et quand je parlais de films où on ne comprend pas tout, bon, il y a 2001. Il y a Mulan Drive, bon, il y a aussi Caché de Haneke et Le Grand Sommeil. Moi, j'adore l'idée qu'il y ait des sites internet où les gens disent « On va vous expliquer Mulan Drive ». À ce moment-là, les types font des grandes théories et il y en a 200 qui disent « Mais c'est n'importe quoi, c'est pas du tout ça ». Et chacun y va de sa théorie. Et ça, c'est quand même toujours... Mais moi, j'admire beaucoup Mulan Drive. Je comprends pas tout et je veux surtout pas qu'on m'explique.
Bien sûr.
Merci beaucoup, merci, Thierry Frémaux. Merci beaucoup.
Et je voudrais juste dire une dernière chose.
Allez.
C'est que David était malade. Oui. Il a déclaré sa maladie. Il a dit, voilà, je suis malade. J'ai le cancer. Parce que j'ai beaucoup fumé, mais j'ai beaucoup aimé ça. Et je n'incite pas, en disant ça aux gens qui nous écoutent, de fumer, mais tout à l'heure, vous avez commencé par la question de la liberté d'expression, de l'indépendance des créateurs,
ouais.
De la liberté de la vie, et je crois que c'est aussi ça qu'il aura incarné à nos yeux dans ses films, et puis pour ceux comme moi, et comme Philippe sans doute, qui ont eu la chance de le connaître.
Merci beaucoup, merci. Thierry Frémaux. Merci. Tentons maintenant de faire le tour de ce parcours unique. Philippe Lynch, né un 20 janvier 1946 dans une petite ville du Montana, étudiant aux Beaux-Arts, et ce premier choc en 77, Eraserhead. Un cauchemar surréaliste en noir et blanc. L'image, le son, la texture. Tout Lynch est déjà là.
Oui, tout Lynch est déjà là. Il met cinq ans à le faire, hein, dans une espèce de grenier de l'American Film Institute où on le laisse faire. Et en fait, ce qui l'intéresse, c'est qu'il bricole le cinéma. S'il met cinq ans, c'est que, bah, il faut de temps en temps gagner de l'argent et tout ça. Et puis, il garde les choses. Il dit, il y a un moment, il y a le personnage de Henri, qui est joué par Jacques Nance, ouvre une porte et j'ai attendu un an et demi avant de tourner le plan suivant, ce qu'il y avait derrière la porte. Mais déjà, il y a son équipe, Jacques Nance qui joue Henri, qui retrouvera dans tous ses films, et puis la femme de la compagne de Jacques Nance, qui est Catherine Coulson, qui aide assistant opérateur, qui sera la femme à la bûche dans Twin Peaks.
Mais oui. Et, oui. Et ensuite, ce film qu'il a révélé au monde entier.
Are you in any pain? Are your parents still alive?
Life is full of surprises.
C'est l'un de vos choix, d'ailleurs, Ludovic et Zoran Boukherma. Elephant Man, pourquoi ce choix-là ?
Je sais pas, c'est un film sur un monstre où le monstre est partout, mais c'est pas John Merrick. Je trouve ça très très beau.
Ah oui, c'est beau comme
idée. C'est un film très humain et formidable.
Zoran ?
Ouais, non, c'est vraiment, c'est ce que dit Ludovic, moi, c'est vraiment le fait de faire un drame avec quelque chose qui, a priori, de prime abord, est monstrueux, et finalement, c'est tout ce qu'il y a autour qui devient monstrueux, et on trouve ça bouleversant, oui.
Avec une larme incroyable dans ce film, Philippe Rouillet, celle de l'acteur qui découvre, Anthony Hopkins, qui découvre... Elephant Man.
Et qui découvre que son patient, il pense qu'il n'a pas d'intelligence, à cause de sa difformité physique, en fait, est un homme d'une grande sensibilité, intelligent, et donc une intelligence emprisonnée dans un corps, et qu'il va contribuer à libérer. Et là, ce qui est formidable, c'est que Lynch, qui est le cinéaste du psychisme, nous fait accéder aux rêves aussi de John Merrick, et notamment dans la fin où on entend ce morceau de Barber là, qu'on avait dans l'extrait, et qui d'un coup libère les choses. Et il y a une poésie extraordinaire, alors qu'on est dans une reconstitution de l'Angleterre victorienne, c'est tout sauf académique. Et du coup, l'émotion est au cœur.
On passera vite sur la douloureuse expérience de Dune en 1984.
Avec quand même des choses, avec quand même des séquences qui nous marquent. L'ouverture est magnifique. Ouais. Je veux dire, les vrais Lynchiens trouvent quand même des choses à sauver. Et puis surtout, c'est le film, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le film qui l'a décidé à arrêter avec Hollywood et les superproductions pour garder le Final Cut. C'est un film que c'est une leçon de vie pour lui.
C'est un film de science-fiction qui prend le temps, ce qui est assez rare.
Ouais, et cette chanson est inoubliable ensuite. Velvet 1986, thriller horrifique et érotique, et le secret derrière le rideau rouge.
Et voilà, et le velours bleu. Et
le velours bleu.
Et ça, c'est. Ça. Et alors, ce qui est beau, c'est que c'est vraiment Isabella Rossellini qui chante la chanson Blue Velvet. Et en fait, il l'a fait entraîner par quelqu'un qui était en fait Angelo Badamanti. Et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés et qu'ils se sont plu. Et Angelo Badamanti fait la musique de Blue Velvet. Et jusqu'à Mulholland Drive, ce sera toujours Badamanti. Et c'est vraiment une contribution extraordinaire. Thierry Frémaux parlait tout à l'heure des plans dans la nuit, des voitures dans la nuit, mais il faut absolument mettre la musique de Badamanti
avec. On n'imagine plus les films de Lynch sans Badamanti.
Et d'ailleurs, Lynch a souvent dit qu'il a inventé ses films avec la musique de Badamanti. Ouais. C'est-à-dire que Badamanti se met au piano et lui commence à dire, il y a une jeune fille dans la nuit, et c'est ça, Blue Velvet, c'est avec un jeune homme qui découvre une oreille coupée au bord de la route en allant voir son père à l'hôpital, et à partir de là, c'est presque la plongée dans l'oreille. Et c'est ça aussi. Ce qui est extraordinaire dans Blue Velvet, c'est que, c'est par exemple l'image de la fin, un rossignol, c'est un rouge-gorge, c'est magnifique, sauf que le rouge-gorge, il est en train de becquer un petit ver qui est en train de se torturer dans son bec, et c'est dégueulasse, mais s'il bouffe pas le ver, il va crever le rouge-gorge. Donc c'est C'est ça l'ambiguïté. Et donc jouer avec les chromos pour montrer la pourriture aussi, c'est ça le cinéma de Lynch.
Et puis cette Palme d'Or en 1990, c'est l'heure et Lula. Comme il y en a beaucoup dans le cinéma de Lynch, Zoran et Ludovic. C'est un film que vous avez choisi, qui est un de vos préférés, une histoire d'amour fou.
Ouais, nous c'est un film qu'on adore, c'est l'heure et Lula. Je crois que ce qu'on aime beaucoup, c'est assez con, mais c'est cette phrase de Nicolas Cage, hein, sur la veste, voilà. Cette veste représente un symbole de mon individualité et de ma croyance en ma liberté personnelle. Pour nous, à travers le personnage de Sailor, c'est Lynch qui nous parle de la façon dont il envisage le cinéma, c'est-à-dire sans compromis et avec une liberté absolue. Et c'est quelque chose qu'on trouve très fort. C'est très dur, je trouve, quand on fait des films, d'arriver à ne pas céder en fait au rouleau compresseur qui est l'industrie du cinéma, en fait toutes les voix qui nous parlent à droite à gauche pour nous tirer dans telle ou telle direction. Et je trouve que Lynch est quelque chose qu'il arrive à pas faire, il plie pas en fait, et c'est quelque chose de très difficile et qu'on admire beaucoup, et que je trouve que cette phrase voilà reprend bien cette idée là ouais.
Il vieillit bien en plus, le film, Ludovic, vous l'avez revu récemment, ce
ça film. Fait un moment, mais c'est pour moi c'est un peu l'histoire d'amour absolu envers et contre tout, quoi, avec ses c'est tueur à gage engagé.
Mais ce qui est fort chez Lynch, c'est
au-delà. Ce qui est beau chez Lynch, c'est qu'au-delà de l'histoire, en fait, de ce qu'on nous raconte, il y a des scènes qui jaillissent comme ça.
Il y a des cauchemars
là.
Qui restent. Moi, j'ai vraiment la scène de la meuf qui meurt au bord de la route. Là, je la trouve. Cette scène, c'est une des scènes qui m'a le plus frappé, je crois. Le she's dying, là, il y a cette espèce de meuf qui est en sang, là, au bord de la route, qui a eu un accident de voiture, et il s'arrête.
Vous y pensez parfois quand vous réalisez? Est-ce que vous pensez aux
des plans, aux metteurs, des couleurs
De lui ou d'autres, d'ailleurs? Est-ce qu'il y a des images qui se sont imprimées en vous? Et que même inconsciemment...
Mais on pense souvent, là. C'est que même les films qu'on n'a pas revus depuis longtemps de Lynch, il y a toujours des scènes qui restent, et c'est souvent des scènes qui sont un peu comme des rêves ou des cauchemars, et nous, on a un rapport aux rêves et aux cauchemars qui est assez... obsessionnel. Enfin, je pense que le matin, je me réveille, je note mes rêves très souvent.
Ah ouais.
Et je trouve que Lynch arrive à capturer ça. Il y a des scènes, c'est des cauchemars. Ce qui mange, je pense peut-être, je sais pas si j'anticipe, mais à Mulholland Drive, la scène du Winkies avec le gars qui raconte son cauchemar avec la femme derrière le mur.
Ouais.
Et ça, c'est, je crois que c'est une des scènes qui nous hante. Et alors, moi, je suis allé à Los Angeles il y a quelques années, et j'ai dormi dans un hôtel un peu pas très flamboyant dans le quartier d'El Segundo. Et en face de l'hôtel, je vois un diner fermé. Je me dis, c'est marrant, on dirait quand même vraiment beaucoup le Winkies de Mulholland Drive. Et alors, je regarde sur la droite, juste à côté du Winkies, et je vois la rampe verte de l'escalier qui descend vers le mur. Et alors là, je me suis dit, c'est évidemment cet endroit. Alors moi, je crois que dans Mulholland Drive, c'est ni le jour ni la nuit quand il raconte son cauchemar. Moi, c'était la nuit, et j'ai descendu cet escalier. Et je me suis avancé comme ça sur le parking en contrebas, où il y avait le mur et le monstre derrière.
Vous êtes aussi des cinéastes d'atmosphère, tous les deux. Non.
Ouais, moi, ce qu'on aime bien chez Lynch aussi, c'est ça justement, c'est la façon dont le mal est un lézard un peu derrière les murs, voilà, sans vraiment être présent. Des fois, il filme rien, il peut filmer le quotidien, et pourtant, on sent qu'il y a quelque chose de malaisant qui se trame quelque part. Et c'est vrai que dans Teddy, notamment, on a essayé de faire un peu ça dans les séquences un peu de quotidien, où on essaye de faire exister une pesanteur comme ça qu'on fait jouer des fois par des bourdons, des bruits de vent qu'on accentue un peu, qu'on appuie, voilà. Et je crois que ça vient inconsciemment un peu du cinéma de Lynch. Ouais.
Et après un film remarquable, ce qui est Lost Highway, on écoute. Alors, qu'est-ce qu'on va écouter là-dessus? On va écouter une scène, Philippe, la scène justement où...
La plus effrayante, une des scènes les plus effrayantes de l'histoire du cinéma.
À savoir,
on va dans une partie hollywoodienne où on s'ennuie un peu, et là, en prenant un verre, il y a un type qui vous accoste, qui est l'espèce de l'homme mystère, et voilà, et il dit « je suis chez vous ». Téléphonez chez vous, vous verrez. Et le personnage téléphone, et voilà. Et l'acteur, cet homme mystère qui a vraiment un physique très impressionnant, c'est Robert Blake, qui joue le tueur dans 200 froids de Richard Brooks.
Mais c'est vrai, mais oui.
Et qui après a fait de la prison pour avoir tué sa femme. Enfin, je veux dire, il y a une charge incroyable dans ce personnage.
C'est lourd.
On écoute cette scène.
Call me. Dial your number. Go ahead.
I told you I was here.
Très abscon, hein, Lost Highway.
Ah bah oui,
c'est presque un synonyme de Lynch.
À l'époque, on disait que fugue psychogénique, c'était la tagline. Mais c'est beau parce que fugue psychogénique, en fait, si vous savez ce que c'est qu'une fugue en musique, eh ben en fait, oui. La structure du film, c'est la fugue. Alors je vous dis juste ça, revoyez-le ce soir et vous comprendrez. Hein, y a un morceau conseil. Qui commence et un autre, hop, et ça se rejoint.
Un autre film que vous avez expliqué à travers un documentaire, c'est Mulholland Drive. On va écouter un petit morceau de Mulholland.
I can't believe it. I'm just so excited to be here. I'm in this dream place.
This one comes highly recommended.
Dream place. What are you doing?
Get out of the car.
Yeah. The girl is still missing.
What's wrong?
I don't know who I am.
Votre documentaire, Philippe Rouilly, s'appelait « Retour à Mulholland Drive », où vous tentiez d'expliquer cet univers à Hollywood, ces deux actrices qui n'en sont qu'une.
Ce qui est marrant, c'est qu'une semaine après la sortie, Lynch avait publié 10 clés, parce que tout le monde, le monde entier disait « mais on ne comprend pas ça », et dit 10 clés pour comprendre mon film. Alors déjà, c'était malin, parce que les clés pour les essayer, il fallait revoir le film, donc repayer un ticket. Pas et mal. Puis évidemment, c'était des clés de David Lynch, donc c'était des énigmes en soi. Et moi, j'avais essayé de partir de ces clés, et de proposer, voilà. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que pour ça, j'avais repris des extraits du film que j'avais un peu tordu et tout ça. Évidemment, c'était un film Studio Canal, donc il y avait possibilité pour les droits, mais il a fallu quand même écrire à David Lynch pour lui demander s'il était d'accord qu'on enlève de la musique là, pour faire une démonstration. Et sans voir le... Il a dit, mais je vous laisse totalement libre de faire ce que vous voulez.
Mais lui-même a dit un jour qu'on pouvait monter le film autrement, enfin qu'il aurait pu faire un autre montage du film.
Bah, de toute façon, ça devait être autre chose, puisque ça devait être une série télé.
C'est vrai.
Ça devait être une série télé, et en fait, ABC qui produit la série... Il y a un changement de personnel et dit ben voilà, le pilote, on ne le passera pas. Vous savez, on fait un pilote et puis si le pilote marche, on fait la série. Et là, ben, le pilote, on ne le diffusera même pas. Donc il arrive à Cannes pour présenter une histoire vraie et il a la tête comme ça. Et je veux dire, les gens lui disent ben attends, t'es à Cannes, c'est la fête. Et il dit ben non, parce que j'ai fait un pilote. Et c'est à ce moment-là que l'équipe Pierre Edelman, Alain Sard, dit est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de racheter ce pilote et de voir si en rajoutant quelques scènes, tu ne pourrais pas en faire un film. Et c'est ça, la nature si particulière. Et ce qu'a toujours dit Lynch, c'est que la vraie forme de Mulholland Drive, il pouvait croire que c'était une série, mais non, en fait, c'est ce film extraordinaire qui a des premiers grands films du 21e siècle.
Entre Lost et Mulholland, il y a une histoire vraie, vous l'avez choisi, Ludovic et Zoran. Sur l'affiche, il est marqué le plus doux, le plus compatissant des films de Lynch, mais ça reste un grand film de Lynch.
Mais parce que Lynch, il peut tout faire, mais ça que je trouve fou, c'est que c'est le cinéaste du rêve, et en même temps, quand il s'empare des histoires vraies, il en fait des choses qui... Il va sur des terrains qui sont inattendus pour lui, ouais, sa forme.
Mais en fait, pour moi, c'est un film totalement lynchien parce que c'est l'histoire d'un homme qui affronte ses démons. Alors, ses démons, c'est pas l'existence du mal, mais c'est des souvenirs très douloureux de la Deuxième Guerre mondiale. C'est le ressentiment familial. C'est sa fille qui est jouée par Sissy Spacek, à qui on a pris les quatre enfants pour les placer à l'assistance publique à la suite d'un incendie. Et c'est comment il va faire entreprendre ce voyage en tondeuse à gazon, enfin en motoculteur, pour retrouver son frère. Et en fait, se retrouver lui. Et la relation entre lui et son frère, c'est totalement lynchien. C'est pas des jumeaux, mais il y a un côté, les deux versants d'une même médaille.
Enfin, il y a la série Twin Peaks, vous l'avez aussi choisi, Zoran et Ludovic. Vous étiez né quand elle est sortie à la télé, cette série ?
Je ne sais pas si on était né ou tout juste.
C'était 90.
Ouais, 90, non, pas encore.
90
pas
encore, sur la Défunte 5.
Et vous l'avez regardé après sur petit écran, alors ?
Ouais, on l'a regardé sur petit écran.
Ouais.
Sur série. Et plus tard, oui, on l'a regardé plus tard. Mais je crois que ce qui est fascinant, c'est pareil, c'est que ça part d'un truc de true crime, d'un meurtre. Et finalement, ça nous emmène complètement ailleurs de ce qu'on peut imaginer, en fait. C'est que... Pareil, on croit comprendre des choses et au fur et à mesure, tout nous échappe et il y a ce, pareil, ce climat de pesanteur qui est toujours là. Moi, j'adore le personnage de Bob qui est toujours qui est caché là, à côté du canapé. Où c'est voilà, il y a ce truc de peur. Nous, c'est je sais pas, il nous remet à notre place. Nous, on est toujours en quête de sens quand on écrit nos films. Et lui, il fait des choses prodigieuses en laissant des portes fermées. Et ça, c'est formidable.
Et en ouvrant sur le tournage, parce que Bob, qui est vraiment un personnage clé de la série, il n'est pas prévu dans le scénario. Et puis tout d'un coup, il tourne. Et puis il voit cet accessoiriste et il lui dit, mais toi, t'étais pas acteur aussi. Et l'autre dit, bah si, mais bon, je fais l'accessoiriste. Et ben, tu vas être acteur. Et tout d'un coup, l'autre, il se retrouve dans le plan et c'est pas voulu. Et il dit, mais c'est formidable, il apparaît dans un miroir. La première apparition de Bob, c'est dans l'épisode 3, il apparaît dans un miroir. Et là, c'est parti.
Et Lynch a été aussi acteur, pour la dernière fois, chez Spielberg, dans les Fablemans. C'est lui qui incarne Ford à la fin.
John Ford.
C'est une vraie rencontre qui a eu lieu entre Spielberg et Ford, et retranscrite à l'écran. On écoute.
See that painting over there?
Tu vois ce tableau-là?
Yeah.
Oui, I mean, je le vois.
Yes, I do see it.
Walk over to it.
Mets-toi devant.
Well,
c'est quoi?
What's in it?
Décris-le.
Describe it.
Oh, okay. So there are two guys.
Il y a deux types, ils sont à cheval, ils cherchent quelque chose peut-être.
They're looking for something, so maybe they're scouting.
No. No. Where's the horizon?
Non, où est l'horizon?
The horizon?
L'horizon.
Where is it?
Où est-il?
It's at the bottom.
Il est en bas.
That's right.
Exact.
Walk over to this painting.
Mets-toi devant celui-ci.
Well,
alors?
Right, okay, so there
alors, il y a cinq cow-boys.
Non,
où est l'horizon, merde.
Where's the goddamn horizon?
It's there.
Il est là.
There. At the top of the painting.
All right, get over here.
Viens ici maintenant.
Now remember this.
Souviens-toi de ça.
When the horizon's at the bottom, it's interesting.
Quand l'horizon est en bas, c'est intéressant.
When the horizon's at the top, it's interesting.
Quand il est en haut, c'est intéressant.
When the horizon's in the middle, it's boring as shit.
Quand l'horizon est au milieu, c'est nul à chier, chiant comme la pluie. C'est beau cet héritage, hein, Philippe Rouillet. Entre
ben, on sent comme il y avait une passation. Enfin, je veux dire, quand on voit le film de Spielberg, la première fois, on s'attendait évidemment pas à ça. Et quand il ouvre la porte et qu'il rencontre John Ford, c'est extraordinaire ce pont entre John Ford et Spielberg et David Lynch. Ben, je veux dire, c'est tout d'un coup ces trois générations de cinéastes. Et c'était un moment magique et une idée de casting géniale.
Thierry Jousse a dit un truc très beau, je vous la soumets, cette phrase de Vic et Zoran sur Lynch. C'est plus qu'une œuvre, c'est un monde qu'il nous a laissé. Ça vous laisse sans voix.
Oui, non, mais ce qui est fou chez Lynch, vraiment, c'est une atmosphère. C'est ça qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin, je trouve, de comprendre pour le ressentir. Et c'est un cinéaste d'atmosphère. On retient vraiment les. Ouais, c'est des ambiances et c'est des choses qui sont assez immortelles. Ouais.
Qui nous accompagnent tout le temps. C'est vrai que pour le coup, Mulholland Drive, c'est peut-être le film qu'on a vu. On a dû le voir 15 fois en espérant percer le mystère sans jamais vraiment y arriver. Mais
pour revenir sur le choix de Spielberg, très astucieux, je trouve, de choisir Lynch pour jouer Ford, je trouve ça assez marrant parce que Ford, c'est le western, il y a quelque chose de plus traditionnel dans le type de réalisation. Et je trouve d'avoir choisi Lynch, qui est un cinéaste complètement non-conformiste pour jouer ce rôle-là, c'était assez malin de la part de Spielberg.
Et enfin, Philippe, pour ceux qui ne connaissent pas encore Lynch, quel film il faudrait commencer?
Moi, je le suggérerais Blue Velvet, parce que Blue Velvet, pour les raisons qu'on disait un peu tout à l'heure, il y a un peu toutes les clés pour comprendre comment on part de l'Amérique, parce qu'il y a une passion de l'Amérique chez Lynch, de l'Americana, et comment on va regarder derrière le chromo. On se dit, c'est un peu trop cliché, non, cette Amérique rutilante des années 50. Mais il faut cette beauté-là pour voir derrière, accéder à une vérité. Et il faut se souvenir que c'est un artiste, un graphiste, un artiste peintre, donc il y a des idées visuelles, mais c'est aussi quelqu'un qui très vite a voulu assurer le design sonore de ces films. Et ces films, vous parliez tout à l'heure d'une ambiance de vent, de portes, etc.
Le téléphone qui sonne
dans la nuit californienne. C'est ça, et ça ajoute à l'atmosphère. Parce que l'atmosphère, c'est des émotions qui arrivent par l'image et les sons.
Enfin, vous avez écrit tous les deux un très beau texte. Nous retrouverons sur notre site, Laurent, un texte à propos,
ligne,
bien sûr. De Lynch. Vous restez avec nous. Merci. On se retrouve après Fuckers, I Don't Wanna.
Hey, what's with the scissors?
They're what was used.
What the hell?
He said he can't hear you.
Give me that megaphone.
I thought you were gonna show us a dance.
I'm not afraid to
Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
On va commencer par Je suis toujours là de Walter Salles qui revient sur la dictature au Brésil en 71 à travers le destin d'une famille, une famille bourgeoise que lui-même a connue de Rio, dont le père sera arrêté et disparaîtra sans jamais laisser de traces. Et surtout le combat de sa femme après cette disparition, Laurent.
Oui, tout commence dans la douceur d'une chronique familiale brésilienne, oui. Pleine effectivement de douceur, de chansons, de plages, de Brésil, quoi, tout ça. Et puis ben, le tout dans une maison de rêve, cocon protecteur et havre de paix, jusqu'à ce que effectivement la machine se dérègle complètement et que la police fasse irruption pour incarcérer, puis faire disparaître à jamais le père de famille. Et c'est là que le film se fait un portrait extrêmement délicat, subtil, d'un groupe familial qui essaye de ne pas se déliter, qui survit grâce à une sorte de mère courage qui est toujours là, pour reprendre le titre. Moi, j'ai songé au film au premier film de Costa Gavras, et notamment Z, dont le titre était Z, ça veut dire il est vivant en grec, grec moderne. Ben, on a ce sentiment-là d'un film extrêmement politique qui dit les choses extrêmement justes en même temps sur la nature humaine. C'est un très très beau film.
Le dossier Maldoror de Fabrice Duvels. Belgique 95, la disparition inquiétante de deux jeunes filles bouleverse la population et déclenche une frénésie médiatique. Paul Chartier, jeune gendarme idéaliste, c'est Anthony Bajon, rejoint l'opération secrète Maldoror, dédiée à la surveillance d'un suspect récidiviste, un film inspiré de l'affaire Dutrou.
Oui, alors c'est une lointaine lecture de l'affaire Dutrou, et on peut se demander pourquoi un tel choix. Est-ce que si c'est pour appâter le chaland en quête de sensations fortes, tout en finalement ne relatant pas et en ne traitant pas l'affaire réellement, c'est un petit peu malsain comme démarche. Et moi, ça m'est apparu comme ça tout au long du film, surtout quand les réalisateurs caricaturent tous les personnages qui gravitent autour de son personnage principal. Alors certes, au point de nous épargner, tant mieux, les enlèvements et la barbarie qui s'en est suivi, mais très franchement, j'ai eu l'impression d'un projet qui se cherchait lui-même sans réellement savoir ce qu'il voulait nous dire.
Ah, moi, je défends beaucoup le film. J'ai aimé toutes les deux premiers tiers qui sont une enquête policière avec qui est au sein de la guerre des polices. Et ça s'est vraiment passé avec l'affaire Dutrou, avec trois polices, la gendarmerie, la police communale, la police nationale, et le refus de se passer les informations, voire de se faire des crocs en jambes au détriment de la vie de ces gamines qui étaient captives. Et puis une dernière partie qui bascule vraiment dans l'horreur qui est sous mode massacre à tronçonneuse. Oui. Voilà. Et donc, on va dans le cambouis. Sergi Lopez est extraordinaire en Marcel de Dieu, l'espèce de garagiste abominable. Et puis Anthony Bajon, qui est cet idéaliste qui porte, qui est lui-même un enfant perdu, hein, et qui va être accueilli par sa belle famille sicilienne. Il y a une scène de mariage superbe et tout. Le film a beaucoup de couleurs.
Mais bon.
Mémoire d'un escargot, une merveilleuse animation pour adultes, un conte en pâte à modeler signé Adam Elliott à la mort de son père, la vie heureuse et marginale de Grace Pudel, collectionneuse d'escargots et passionnée de lecture, vole en éclats. Arrachée à son frère jumeau Gilbert Alatin, elle atterrit dans une famille d'accueil à l'autre bout de l'Australie. Drôle, précieux, bouleversant, merveilleux, magnifique. Tous ces adjectifs s'accordent avec ce film, Laurent.
Oui, alors depuis Mary et Max, on sait la puissance de l'animation d'Adam Elliott, sa singularité extrême dans le paysage du film d'animation. Alors au-delà des prouesses, 33 semaines de tournage, 200 décors, 140 000 prises de vue, 7 000 objets confectionnés pour l'occasion. Bon, non, mais ce qui frappe, c'est l'incroyable férocité du film, qui n'est décidément pas un film pour enfants. Hein. Il y a un incroyable mélange de tristesse et de vivacité, de tendresse et d'ironie, de drôlerie et de mélancolie. On est beaucoup plus proche du conte philosophique que d'un récit classique et on en sort chamboulé.
Avec une vieille dame punk.
Oui,
absolument. Qui est extraordinaire. Il faut vraiment y aller, c'est drôle.
Inspiré de la grand-mère du réalisateur, je crois.
Voilà. Oui. On a fait un entretien en positif avec Adam Elliott.
Ah, très bien.
C'est bien que c'est positif de temps en temps, vous avez parfaitement raison.
Alors, un petit peu moins d'enthousiasme pour le quatrième mur de David Wolf. Holofen, pardon pour lui. Liban 92, pour respecter la promesse faite à un vieil ami, Georges, c'est Laurent Lafitte, se rend à Beyrouth pour un projet aussi typique que risqué, mettre en scène Antigone, afin de voler un moment de paix au cœur d'un conflit fratricide.
Oui, alors, qu'est-ce qui explique nos réticences, enfin les miennes? Est-ce que c'est le dérisoire de la fiction, alors que le Liban vit à nouveau des heures sombres? Est-ce que c'est l'artificialité totale de la narration?
Est-ce que c'est l'histoire d'amour qui est inutile?
Exactement, l'excès de pittoresque parfois dans le casting à l'intérieur même du film. Alors, je suis resté hors de ce quatrième mur que parcourt quand même très facilement un pathos et qui se termine en plus de façon assez malaisante.
Oui, spectateur avec un point d'exclamation d'Arnaud Desplechin, qu'est-ce que c'est aller au cinéma? Pourquoi y allons-nous depuis plus de 100 ans? Je voulais célébrer, dit-il, les salles de cinéma et leur magie.
Alors si la notion de cinéaste cinéphile, qui n'est pas un pléonasme, hein, contrairement à ce qu'on croit, n'existait pas, il faudrait l'inventer spécialement pour Arnaud Desplechin, parce que cet essai cinématographique est une large et belle lettre, longue, large et belle lettre d'amour au 7e art. Alors comme toutes les lettres d'amour, elle peut contenir quelques maladresses, quelques petites comme ça, affaîtries, mais on s'en fiche, parce que dans ce que Desplechin nous dit, il parle évidemment de lui et à travers son art d'aimer le cinéma.
Enfin, un doc qui s'appelle Cette promenade avec Marc Brown, de Pierre Creton et Vincent Barré, où l'idée de vraiment savoir regarder ce qui nous entoure dans cette célébration de la botanique, Laurent.
Mais le cinéma est un art merveilleux, il me fera aimer la botanique. C'est un pari fou, impossible. Bon, si, parce que dans ces 7 balades dans le pays de Caux, on tutoie effectivement le paysage qu'on foule de nos pieds sans le voir, paysage qui a 400 millions d'années, hein, contre nos 300 000 peut-être années à nous les pauvres, donc c'est extraordinaire, chaque brindille prend les faits au fond d'une histoire, non seulement de l'humanité mais de la Terre, c'est extraordinaire.
Une rétrospective Gilles Grangier, chronique des années 50.
Je rappelle que les mémoires de Gilles Grangier parues aux éditions Actes Sud s'appellent Passer la Loire, c'est l'aventure. Le plus beau titre du monde. 5 films trop méconnus, 125 rues Montmartre, Meurtre à Montmartre, Le sang à la tête avec Gabin, extraordinaire, 3 jours à vivre avec Ventura et une petite merveille aussi aux petits ouaves. Il faut revoir les films de Gilles Grangier.
Les Lumières de la presse internationale, 30e édition, c'est un peu nos Golden Globes français. En tête des nominations, Emilia Pérez, l'histoire de Souleymane et Miséricorde. La cérémonie aura lieu lundi soir prochain au Forum des images à Paris, sinon un autre festival, Laurent.
Le festival Télérama, en compagnie des salles ARC, 4 euros la place avec le pass Télérama, du 22 au 28 janvier, 15 films dont à revoir, ou à voir, dont Les Graines du Figuier Sauvage, Le Mal n'existe pas, Borgo, Flo, des films qu'on a adorés, et puis 5 avant-premières dont La Pampa et L'Attachement, c'est le festival Télérama.
Et le festival de Rome à Paris aussi.
Et le festival de Rome à Paris, mais qui a une dernière projection, je crois.
Jeudi 23 janvier semaine. À 19h30, voilà. Une soirée pour célébrer un cinéma italien, voilà. Au Publicis Cinéma des Champs-Élysées.
Et puis jusqu'au 26 janvier, si vous êtes à Angers, dans sa région, s'il vous plaît, allez au festival Premier Plan, qu'une certaine classe politique locale s'emploie à priver d'argent. Ouais. Et c'est très très malheureux, parce que ce festival est un très beau festival, une compétition de long et de court, des avant-premières à gogo, des hommages à Jeanne Balibar, Nicolas Philibert, ouais. Fellini, Jeanne Moreau, des films d'école, des leçons de scénario, des lectures de scénario formidables. S'il vous plaît, allez à Angers du 18 au 26 janvier.
Festival magnifique où les gens, chaque fois je le dis mais je suis épaté, les spectateurs restent jusqu'au bout du générique de fin. Je n'ai jamais vu ça, vraiment. Grand geste cinéphile. Et maintenant, les cadeaux, Laurent.
Maintenant, les cadeaux, voilà qui se dérobe. Pour Ludovic, pour vous, Ludovic, est-ce que vous connaissez la classe ouvrière
Ira au paradis.
Va au paradis. Va au paradis. On se trompe toujours. Pardon. La classe ouvrière, j'allais me tromper. La classe ouvrière va au paradis. Un film d'Elio Petri des années 70 avec Gianmarie Volante. C'est un grand, grand film politique extraordinaire. Ça paraît chez Tamasa avec un livret, des bonus en nombre. Vraiment, il faut découvrir ce film. Pour vous, Zoran, un film qu'on a beaucoup aimé cette année, Le Roman de Jim, je ne sais pas si... Et ouais. Il est fait par un duo de frères qui vous rejoint. Voilà, évidemment, c'est chez Pyramide. C'était un peu la thématique du jour. Il est avec Karim Leclou et c'est un sublime mélo paternel, on va dire. Pour vous, Philippe Rouillet, je ne vous fais pas l'injure, vous ne découvrirez pas ce film, mais je suis sûr que vous aurez plaisir à le revoir. Mortelle randonnée. Ouais.
Formidable.
Merci de Claude Miller avec Isabelle Adjani et Michel Serrault, c'est chez Rimini. Très belle édition, avec notamment des éclairages extraordinaires sur la musique, et elle est signée, s'il vous plaît, de la très grande Carla Bley.
Voilà.
Merci beaucoup.
C'était David Lynch, parti jeudi à 78 ans, Los Angeles. Merci de l'avoir honoré de vos commentaires à tous les trois. Merci Philippe Rouillet pour le CERF Canal Plus et pour votre revue Positif. Merci Zoran et Ludovic Boukerma, votre film Leurs enfants après eux est toujours à l'affiche sur nos beaux écrans français. Merci à notre équipe, Valérie Ayestaraï à la réalisation, Louise Tempéro à la préparation et Thierry Dupin à la programmation musicale.
Merci à tous les trois.
Au revoir.
Merci. Salut.